Salut troupe, Faber-Glass ici pour un nouvel épisode du Faber-Cast. Je pense que c'est la première fois que je fais mon intro différente, je sais pas pourquoi, ça a sorti de même. Fait que c'est ça que ça va être cette semaine sur le podcast. On a trois invités, le premier d'entre eux c'est quelqu'un qui va faire son comeback au TKO 49, un bon ami du podcast. On l'a reçu maintes et maintes reprises auparavant, autant sur le Faber-Cast que sur le Podcast avec Adad HK avant. Et on a même mangé des beignes avec lui, je parle de Frédéric Duprat, très excité de parler avec Frédéric. On a toujours d'excellentes conversations. Moi et lui, c'est un de mes boys, puis je l'aime beaucoup, puis c'est tout le temps sa coche de jaser avec. Donc, Fred Duprat sur le podcast cette semaine. Ensuite, on répète un peu l'expérience qu'on avait faite avec Marc-André Barriot et Christophe Jodko. J'ai deux adversaires de l'UFC Vancouver sur le podcast. Le premier d'entre eux, c'est notre Canadien Cole Smith, combattant de Vancouver, qui va avoir la chance de se battre devant les siens pour son deuxième combat UFC. Il avait disputé son premier combat UFC au Canada, mais c'était en Ontario contre Mitch Gagnon, donc tout le monde voulait qu'il perde. Là, il va être devant ses partisans, il va avoir la foule derrière lui. Il affronte Miles Jones, qui a gagné au Contender Series. C'est un des meilleurs prospects chez les 135 livres. Je l'attendais depuis longtemps dans l'UFC, puis je suis vraiment honoré d'avoir eu la chance de lui parler de ça, de ce combat-là, de Fortis MMA, son gym, que on dirait qu'à chaque semaine, t'attends un nouveau combattant du Fortis MMA qui gagne dans l'UFC puis qui est on the rise dans sa division. Donc, on jase de tout ça avec Miles Jones. Avant de vous laisser aller écouter l'épisode, je veux juste dire un gros merci à Carl Deschaines, mon ami Carl, qui s'occupe de la page cette semaine, parce que là, présentement, pendant que vous écoutez ce podcast-là, je suis en vacances. Je suis parti ce matin, samedi matin, très tôt. Là, il est midi. J'ai peut-être pas le temps de rentrer dans le bois avant que l'épisode sorte, mais si je suis pas dans le bois présentement, je le suis dans quelques instants, je vais perdre tout réseau et je ne serai pas disponible pour toute la semaine. Donc, je ne verrai pas le premier combat dans l'UFC de Cyril Gane. Ça fait tellement mal, mais dès que je vais sortir du bois samedi prochain, je vais m'assurer d'écouter ce combat-là avant l'UFC 241, bien sûr. Donc, bonne écoute à tous, bonne semaine à tous. Un gros merci à Carl de t'occuper de la page pendant mon absence et puis bon podcast à tout le monde.
Ton
suit
d'orange,
par exemple.
Tu l'as
pas tout
profil, je pense.
Ouais.
Quand tu l'as mis en instant, ça t'a mis en background.
Ça serait malade que je joue ton arrière-plan, pareil, hein. Je réveille le matin, tête de merde à Faber, man.
C'est qui ça?
Ouais.
Pourquoi il y a un dude avec des collants orange?
Ah, de pizza, genre.
Ouais.
Yes, mais Chris, sur ce, guys, on est là avec quelqu'un que vous aurez reconnu, même si ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, pis on y a pas parlé, mais asti, c'est le grand retour, puis on voulait parler de ça avec lui. On parle à Frédéric Duprat. Comment ça va, mon boy?
Ça va bien,
man, je suis content de te parler, je suis content de voir que tu vas faire ton retour, puis je suis content de voir que t'as ton chien aussi avec toi, je le trouve tellement sa coche, là. Oh my god. La mascotte du H2O, man, il est tellement beau. Fait combien de temps tu l'as?
Ça va faire un mois et demi peut-être. C'est une patate.
Ouais, ben oui. Ah, il est magnifique, man, c'est ça la coche. Ça, quand j'ai vu Richard mettre les photos sur Facebook, j'étais là, yeah, ça me donne encore plus envie d'aller.
La photo à Richard, elle est ça la coche. Pour vrai, ouais. Il a bien de la photo.
Richard, c'est un esti de photographe.
Ben, il a fait, je pense qu'il a suivi des cours à l'école pour ça. C'est pour ça qu'il y a des sad skills comme ça.
Ouais, parce que crime souvent, même, je pense que c'était au dernier UFC, je pense que c'est lui qui a la plus belle photo de la pesée à Barrio, genre.
Ah, je te le dis, il est fort là-dessus, il est vraiment, vraiment fort, man.
Un homme de mille talents, mais c'est ça les Asiatiques, ils sont juste trop forts, est-ce. Ils arrivent, ils sont trop forts dans tout, man. Ils sont surperformants.
Ben, je pense sérieusement, c'est une de ses passions, il aime vraiment, vraiment ça. Tu sais, quand je te dis, là, il est top-notch avec ça, là. Il va avoir les derniers petits gadgets. Des fois, il m'arrive, mais là, il arrive avec des petits gadgets, je suis genre, où est-ce que tu sors ça? Et là, il me dit, oh, Fred, écoute, j'ai commandé ça, puis il m'envoie des nouvelles affaires, comme, t'as-tu essayé le genre de bâton qui tient ton téléphone pour que ça fait que ça filme droite?
Ouais, le genre de selfie stick, mais amélioré, là.
Ben, tabarnouche, c'est ça coche, ce petit bâton-là.
Ouais, c'est vrai que ça va bien. Moi, j'aurais peut-être besoin d'un genre de shit d'arme. Je sais qu'il y a une machine, ça coûte un peu plus cher. Là. Il y a un gars au Nova Gym qui a ça. Shout out à lui s'il l'écoute, là, Yann. C'est lui, s'il filme de la porn avec ça, le gros, là. Mais c'est,
c'est... Ouais, je sais pas si Richard filme de la porn avec ça, mais...
Non, ben, c'est ça, ça... C'est ça qui m'avait fait rire, parce que j'ai dit, Chris, c'est un setup, ça, c'était quand ça, tu t'es acheté ça, et c'est pour filmer mes vidéos de porn, là, pis tout. J'ai dit, ah, Chris, respect, mon gars, man, pas de stress. Mais c'est hot, le gros, c'est comme, ça l'encadre tout ton sel, là, pis, genre, toi, tu bouges, le shit bouge aussi avec toi pour que ton sel... C'est malade, man.
Ben moi, je me rappelle, dans le temps, je faisais des petites vidéos de skate. Et tu me filmais en courant. On l'a fait, ça. Puis ça, c'est pas sa coche.
Non, c'est ça, man. Pas de bon équilibre. La caméra fait ça, là. C'est... Yes, mais Chris, sinon, man, je voulais savoir comment ça a été pour toi les derniers mois, parce que la dernière fois qu'on t'a vu dans la cage, on se le cachera pas, c'était de la tabarnak de marde. C'est un des moments que j'ai le moins aimé depuis le retour de TKO. J'ai eu aucun plaisir à regarder ça. Mais, Calis, il est arrivé ce qui est arrivé. Tu t'es fait passer un asti de knockout, mon gars, un des pires qu'on a vu.
Ouais.
Donc, je voulais savoir, mais... man, comment ça va là, depuis ce temps-là. Combien ça a pris? Ça a été long, genre, avant que t'aies plus mal. Mais t'avais mal où, à first, là, en terminant?
Écoute. Écoute, pour vrai, là, je vais être sincère avec toi. C'est plus, tu sais, ça m'a donné un gros choc à l'orgueil. Puis, tu sais, de un, je pensais pas qu'elle allait me passer ça. De un, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, c'est des choses qui arrivent dans le sport. Tu sais, j'étais vraiment déçu de moi-même parce que j'ai pas pu rien faire. Tu sais, j'ai pas pu me relever. J'ai pas pu, tu sais, de un, j'étais out. Tu sais, j'étais vraiment, vraiment out. Mais, tu sais, ce combat-là m'a fait aussi réfléchir aussi de plusieurs façons. Puis, savoir aussi qui était de mon côté, qui l'était pas. Je te le dis, j'ai jamais été aussi proche de ma famille par la suite. Pour vrai, je passe beaucoup plus de temps avec eux autres. Puis, mes amis aussi, tu sais, des fois, tu te demandes qui est vraiment là pour toi, qui est pas là pour toi. Puis là, ça m'a vraiment fait voir qui était là pour moi. Puis, j'ai été même surpris à quel point j'en avais, tu sais, je pouvais compter sur tellement de monde. Tu sais, je peux appeler ça, tu sais, Team Dupra, c'est pas juste moi, tu sais, c'est vraiment toute ma famille, mes amis, tu sais, les gens qui me supportent. Puis j'ai vraiment été vraiment, vraiment très bien, tu sais, encadré, je te dirais. Puis pour vrai, par la suite, tu sais, moi, après ça, j'étais quelqu'un qui était tout le temps dans le gym, tout le temps, puis tu sais, non-stop. Tu sais, c'est même devenu quelque chose, peut-être, un peu trop, tu sais, c'était too much. C'était vraiment rendu vicieux pour moi. Et le fait de pas avoir le choix, le docteur m'a donné pas le choix de prendre congé environ un mois minimum, puis par la suite aller revenir. Excuse-moi. Revenir par la suite, tranquillement. 2 mois pour avoir de quoi de plus physique. C'est 1 mois, je pouvais commencer après ça à jogger, courir et tout. Mais techniquement, j'avais pas vraiment de séquelles. Tu sais, je me suis fait passer le chaos, même la soirée même, j'ai pas eu de mal de tête, j'ai pas eu... Tu sais, je touche du bois en ce moment parce que j'étais quand même assez chanceux dans ma malchance. Tu sais, mais j'ai fait les protocoles vraiment, vraiment bien, tu sais, j'ai pas rien fait. Mon premier mois, je peux te dire, là, j'ai pris ça vraiment, vraiment relax.
Pis t'as-tu mangé ben des beignes?
Pour vrai, je te le dis, là, ça me... T'sais, tu vis dans un genre de... pas, je pourrais pas dire dépression parce que j'étais déprimé, mais je veux dire, tu sais, ça me faisait chier. Là, t'sais, oui, j'ai monté, je te le dis, j'ai pris du poids parce que j'avais pas le choix. T'sais, je pouvais rien faire, je pouvais pas bouger. La seule fois qui te reste à faire, à un moment donné, c'est quasiment manger, t'sais. C'est vrai, toi là que moi comme je te dis, là, je passais tout le temps mon temps là au gym à m'entraîner, puis là, tu m'enlèves ça, là, ça... ça m'a fait découvrir bien d'autres choses, tu sais, ça m'a fait aussi voir qu'il n'y avait pas juste le MMA dans ma vie, puis that's it, j'ai pu enjoy d'autres choses, j'ai passé du temps avec ma famille puis mes amis, ça m'a vraiment fait du bien, sérieusement, mentalement, là, on dirait que je suis revenu, comme là, je voulais revenir en avril, là, il m'est arrivé des bad luck, puis crime, ça m'a juste, encore là, ça m'a donné d'autres temps à réfléchir, puis à revenir, puis là, je suis prêt, puis that's it. Moi, je suis all good.
Yes, ben, Chris, en plus, man, tu sais, toi pis moi, à l'âge que t'as, man, pis tout, ça te dérange pas, tu sais, si tu prends un an, genre, sans te battre, tu sais, dans ta carrière, au final, ça changera fuck all, man,
c'était... Mais je te le dis, Faber, j'ai, dans un sens, là, j'ai pas eu le choix de le prendre un an. Pour vrai, j'ai vraiment pas eu le choix. Puis la fin qui m'a vraiment aidé avec ça, je trouve que quasiment c'est une bonne chose que ce qui m'est arrivé, parce que le 1 an m'a donné l'opportunité d'améliorer tellement de choses dans ma game, parce que quand j'ai commencé avec TKO, ça a pas arrêté. J'ai pas arrêté de m'entraîner. Tu sais, j'ai pas eu le temps de perfectionner mes autres affaires, puis c'est ça. Fait que là, moi, pendant mon 1 an, j'ai pu améliorer mon stand-up, mon grappling, ma lutte. Tu sais, j'ai vraiment plein de nouveaux weapons que je trouve qui me donnaient encore, qui m'ont mis encore plus haut sa coche. Puis, that's it. En plus, ça m'a fait du bien. J'ai refait une compétition du jiu-jitsu. On s'est même croisés. Tu sais. Ouais. Puis, j'étais vraiment super content. Tu sais, c'est ma première fois que je recompétitionnais aussi, tu sais, d'un niveau, voir avec un petit stress. Puis, tu sais, ça s'est super bien passé. Puis, j'étais bien content avec ça.
Yes, mais ouais, c'est ça, comme je t'ai dit, Krim, c'est la bonne affaire à faire. Moi, je pense que t'as vraiment fait ça super intelligemment. Ben, à chaque fois qu'on s'est parlé, on finit un peu par te dire la même affaire, mais t'es intelligent des affaires que tu fais. Gros, t'es pas un cave, y'a du monde qui aurait voulu bounce back rapidement, tu sais, d'une défaite de même, pis que Chris, justement, il serait revenu dans le gym un mois pile après, où il aurait juste pas écouté le docteur, pis Chris, c'est là que, genre, tu te remets pas à 100% de ça, pis que tu recommences à accumuler du dommage sans t'être guéri du dommage que t'as déjà reçu. Toi, t'es vraiment intelligent avec ça, pis même, tu sais, les autres gars au gym, là, du fort pis tout, ils m'en parlaient, là, comme quoi, tu sais, ça t'a pris un bout avant de revenir. Quand t'es revenu, t'es pas revenu comme un cave non plus à sparer la première semaine, tu sais. Fait que...
Non.
Je suis sûr que, au final, ça va avoir apporté de quoi de bon dans ta carrière, et pis... Tu sais, ça arrive à tout le monde, comme t'as dit. C'est un peu pour ça que tu signes ton nom sur un contrat. Hein? Tu t'en tapes sa gueule avec un d'autre.
Ça fait partie du sport, tu sais. Ça fait vraiment partie du sport. Puis, tu sais, au début, comme je pourrais te dire, là, je l'avais sur le cœur, man. T'as pas idée, là. J'étais, tu sais, ça fait chier. Ça fait chier perdre, tu sais. Surtout de ce moment-là, tu sais, devant toute ma famille. Tu sais, je sais que j'ai marqué beaucoup de monde, parce que, tu sais, je suis pas prêt à. Comme je te dis, j'ai beaucoup de monde en arrière de moi, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a été blessé de ça. Mais je pense que justement, mon comeback va quand même prouver que je peux me relever de ce soir-là. Puis tu sais, même comme je te dis, quand j'ai eu la défaite, tu sais, ma première réaction, c'est « Ah, crime, je le reveux, là, tu sais, faut que je le gèle, puis tu sais, il fait deux fois plus mal, puis that's it. » Mais ça marche pas de même, tu sais, je pourrais pas avancer dans la vie si je reste sur cette page-là. Je dois avancer, justement, le fait d'aller à 145, pour moi, je trouve que c'est une nouvelle étape. Puis au contraire, comme je te dis, on dirait que j'ai tellement grandi de cette histoire-là que à 145, là, je me trouve tellement fort, je me surprends moi-même, des fois, je suis genre, crime, Fred, je pense que t'aurais peut-être dû essayer 145 avant ça. Mais tu sais, encore là, je te parle, mais tu sais, je l'ai pas encore essayé. Tu sais, je te parle selon un feeling. Tu sais, encore là, c'est mon prochain combat, ça va être un petit peu un fight avec moi-même aussi, parce que ça, j'ai hâte de voir que je suis capable de deal avec, tu sais, les émotions qui vont revenir, des choses de même. Mais mon feeling en ce moment, là, j'ai vraiment un feeling là, que je mâche, là, je me sens comme l'incroyable Hulk, je fais tout smash.
Hey, c'est quoi exactement qui a fait que t'as décidé d'aller à 145? Tu as défaite, tu l'as style de white cut de marde, genre, que fallait que t'endures
parce
que.
Pour vrai, pour moi, Faber, j'étais honnête avec toi, je coupais pas tant d'eau que ça, man, avec la diète. Tu sais, je te dis, comme. Il y a du monde qui pense qu'il me regarde et il me dit, oh my god, tu devais couper tellement, tout. Non, mais tu sais, j'étais discipliné, puis je faisais ma diète comme du monde, puis d'attitude, tu sais. Oui, ça devient que ça joue sur le moral en esti. Mais tu sais, maintenant, là, comme là, je te le dis, là, je dirais pas mon poids, mais je suis quand même assez, pas si lourd que ça. Puis, man, je me sens bien, tu sais. Je me sens pas guilty de tricher maintenant, tu sais, à genre 5 semaines de la pesée, man. Tu sais, je suis pas de stress, là. Tu sais, j'ai changé aussi nutritionniste, là, qui me gère. Puis même lui, ça sera pas un fou deal.
Yes, mais je pense que c'est ton frame là qui faisait plus capoter le monde que c'est ton poids en tant que tel. C'est juste gros, t'es fait quand même grand pour un 135, t'es fait quand même large pour un 135. Fait que c'est juste que quand t'arrives là pis tu pèses 135, y'a personne qui comprend comment t'as fait. Pis moi-même, si je comprenais pas, même si tu me disais des fois ton poids, j'étais genre, Chris, j'avoue, pas si lourd que ça, mais t'es juste fait gros. Fait que je pense que dans l'autre division à 145 livres, tu sais, t'auras pas vraiment rien à envier à personne. Je pense pas que tu sais, dans le TKO pis au niveau que t'es en ce moment, tu vas empoigner un esti de featherweight de 6 pieds 1, pis même si tu pognes un esti de featherweight de 6 pieds 1, ben, tu vas être bien plus large que lui, là, parce que ces gars-là sont grands, sont longs, mais c'est des pics, là.
Faber, je peux te garantir que si je m'en vais à 145, crois-moi, je vais pas être le plus petit 145.
Non, je pense que t'es comme quand même un des popés, là.
J'arrive lock and loaded, mon chum. Je te dis, là, les guns, ils vont être là.
Yes, pis ton adversaire, man, tu sais quoi sur lui?
Ben j'ai vu seulement le combat de BTC là, qui a perdu par cote, là, il était coupé à l'œil puis des choses comme ça. Ben la chose que je sais, c'est un gaucher. Fait de la plus de, il est plus un, de la boxe. Puis c'est pas mal ça, là. Les choses que j'imagine, c'est vraiment ça.
Moi tout, je me rappelle d'avoir vu son combat. Mais quand j'ai entendu qu'il avait signé avec TKO pis tout, pis là tu te battais contre, il fallait que j'aille rechecker, pis là j'ai fait « Ah ouais, asti, c'est vrai, BTC, il me semble que j'ai vu ça, cette carte-là, pis là après je me suis comme rappelé, mais sur le coup, genre, je me rappelais pas non plus c'était qui, fait que même moi, pour être franc avec toi, au stade où on se parle en ce moment, j'ai aucune tabarnak d'idée de vraiment contre qui tu te bats pis qu'est-ce qu'il va faire, mais tu sais, rendu là, je pense que c'est quasiment bon, tu sais, c'est comme, c'est ton comeback story à toi, tu sais, c'est ton ouais. Fight, c'est pas, t'as pas besoin vraiment de t'occuper de ce que lui fait vraiment, tu sais, oui, c'est
mais
sûr
tu
que...
Mais tu penses que ça, c'est une autre affaire, tu sais, j'étais genre, oh, tout le temps, je m'ajuste, tout ça, maintenant, là, ils vont s'ajuster à moi, puis tu vas voir, man, ils sont mieux d'être bien préparés, parce que, man, moi, je rentre comme un... Ça va être vrai. Je rentre comme un train, il est mieux de se tasser parce que ça va faire mal en tabarnak.
Au moins, tu viens pas de faire un call à la Matthews. Toi, t'as-tu écouté le style de combat de Covington en fin de semaine?
Ouais, man, j'ai vu, man. Il est sauvage, ce gars-là. Ben, t'as-tu vu son combat, man? Sérieusement, ce gars-là... C'est la première fois que j'ai... Kobe Covington, je l'aime pas.
Mais non plus.
Fait que je l'écoute pas, normalement. Fait que, tu sais, mais c'est la première fois que j'écoutais son fight, puis je fais... Pour vrai, il est vraiment bon.
C'est ça qui me fait le plus chier, man. Parce que, genre, je l'haïs, Callis, man. J'ai envie qu'il se fasse péter à gueule, mais il se fait jamais péter à gueule. Puis Chris...
Pour vrai, mais c'est un personnage, ce gars-là. Tu sais, dans le fond, je trouve que le gars, il est fucking nice dans la vie, man. Tu sais, c'est...
Probablement, man. J'essayais de demander, j'ai parlé avec une couple de personnes au ATT, là. Genre pour le podcast, là, justement, là, pis j'essayais un peu de leur demander, mais Jillian Robertson, vu que c'est une fille de 115 livres, elle est juste comme pas jamais vraiment dans le gym en même temps que Colby Covington, là, ils ont genre 100 pros, esti, dans le gym, pis la majorité d'entre eux sont dans l'UFC, là, fait que, tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui interagit avec tout le monde dans ce gym-là, fait que le monde à qui j'ai parlé, j'ai pas pu savoir, justement, il était comment, parce que, gros, entre toi pis moi, c'est clair, net et précis que ce gars-là apprend ses lignes pis il récite, là, rendu devant une caméra, là. Ouais. Tu sais, il y a du monde, Conor McGregor, tu le sais, c'est un naturel. Genre, le gars va avoir un call qui va lui popper dans la tête, va te le lâcher, ça va toujours être le bon call approprié qui va vraiment te faire chier. Ouais. Colby Covington, lui, c'est juste, il a appris un texte de 1000 mots, là, pis là, quand il arrive devant la caméra, il te le récite. Pis si t'essayes de parler par-dessus lui ou de changer de sujet, il s'en calisse, lui, quoi, il stick to his line, là. Comme Chael Sonnen, il est vraiment un personnage typique WWE, là. C'est genre classique.
Mais c'est ça, je trouve, qu'enlève le charisme du personnage. Tu sais, tu vois que le gars, c'est fake son shit. Tu sais, c'est vraiment, vraiment trop, too much. Pis t'es genre, tu sais, un peu plus, c'est plus. Tu l'as-tu vu s'astiner avec Ousmane?
Ouais.
Les deux, on dirait deux canettes qui s'astinent. Les gars, là, sérieusement, là, vous l'avez pas l'affaire, les deux, là.
Non, Kamaru Usman, il l'a vraiment pas, là. Tu sais, on s'entend, le gars, man, avant d'être champion, pis un peu de faire oublier ça, il se faisait comme niaiser. Parce qu'il avait fait un esti de combat de marge. Je me rappelle plus c'était contre qui, man, mais c'est même pas un bon gars. Pis tout le long, il avait chialé, là, le build-up, genre, ouais, pourquoi je me bats contre un esti de gars de même? Je me bats même pas contre un gars dans le ranking. C'est quoi l'esti de joke? Nanana, nanana. Pis là, il s'était pointé, il avait sorti une tabarnak de performance de marde, il avait gagné une décision, mais genre relativement serré, genre. Puis après, il avait été dit, regardez, j'ai fait ça en utilisant juste 30%. Imaginez, ça va être quoi si j'utilise 100%. Puis là, il était comme devenu un meme, là. C'était genre 30% comme un Usman, là. Puis...
Ah, ça, j'ai vu.
C'est Dana White l'avait calissement blasté, genre, gros, man, pourquoi tu t'es battu à 30%? Pourquoi tu t'es pas battu à 100%? Genre, t'as aucun mérite, dans le fond, là. Mais, genre, il fait qu'il est pas bon, là. Il a pas le taux, tu sais. Il a essayé de faire un statement en disant ça, puis c'est juste fait niaiser par tout le monde. Puis Covington, c'est juste cringe du début à la fin. Fait que, trash talk, ça va être de la merde, mais le combat, ça va être bon, par exemple, tu sais.
C'est un esthétique. C'est un bon combat. C'est deux styles quand même assez similaires, man. C'est ça le plus fou là-dedans. Ouais, c'est deux styles complètement similaires,
mais différents, genre, dans le sens que c'est deux lutteurs, là. Mais t'en as un qui court après toi en lançant, gros, il a lancé 564 coups dans le combat.
Mais t'as checké le combat?
Ouais.
Même, ben, ça m'a surpris, sincère. Quand ils m'ont dit, quand j'ai vu le score, j'ai fait crime. Ça n'a pas paru comme des. Tu sais, c'était vraiment des petites shots qui commençaient.
Il n'y a rien en arrière de rien, là, on s'entend. Là, il met aucun power dans fuck all, mais il court après toi, puis il lance tellement que t'as juste pas le choix de t'occuper de ça, puis il arrête, il yank pas. Tu sais, il prend jamais un 10 secondes tranquille pour que t'ailles le temps de setuper ton attaque, tu sais. Fait que t'aimes toujours sa défensive avec lui, mais Usman.
Ouais.
Lui, c'est direct le call. C'est lui, c'est le control wrestler. Là. C'est le gars qui va vouloir fermer à distance. T'as le call ici dans la cage. Puis lui, c'est d'autre là qu'il frappe. Là. Quand il est dans la cage, il te sac des coups de genoux, il te sac des.
Mais tu vois, il essaie de faire du dommage aux humains.
Ouais.
Tu sais, mais l'affaire que je dois lui donner à Kobe, man, son cardio, ouais. Et ça coche, man. Ouais. Genre, tabarnak, je sais pas arrêter. Non, ça. Puis même au cinquième round, il avait pas l'air fatigué du tout, là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, il a pris deux rounds pour juste striker avec Robbie Lawler, puis il l'a battu pareil, là, tu sais. Il a fait comme Khabib contre Aya Quinta, genre, mais mieux que Khabib, genre.
Ouais. Mais comme, ça m'a surpris comment qu'il a gazé Lawler. Premier round, Lawler était fini, ouais, là,
fini t'sais.
Tu le voyais que Lawler, il pouvait pas revenir. Tu sais, j'écoutais les commentateurs qui disaient, ah, oh, ben, il peut revenir, puis tout ça. Il reviendra pas là-dessus, là. Tu le vois bien, là, qu'il est gazé raide, là.
Ah non, c'est ça, il a laissé, tu le voyais, mais c'est ça qui me gosse de Robbie Lawler, autant c'est un de mes combattants préférés ever, comme pas mal tout le monde, là, je pense, autant il y a des match-up des fois, que ce combat-là, je le savais qu'il allait perdre d'avance, je le savais, puis oui, tu sais, il est dangereux debout, puis oui, faut que tu lui donnes ça, mais je le savais qu'il allait perdre, parce qu'il y a juste des match-up qu'on dirait que ça l'intéresse pas. Il est genre, moi, il me bat contre un esti de lutteur, il va essayer de me lutter, là, pis, tu sais, au premier round, Colby, ça l'est vraiment joué le lutteur, là, pogner le dos, tu sais, mais pas avec ses hooks, là, genre vraiment pogner le dos, genre, lutteur style avec son body lock, pis essayer de pas faire grand chose à part rider, genre, pis, tu vois que ça, là, c'est ça qui décourage Robbie Lawler, pis dans ces combats-là, des fois, il est juste pas dans le combat. Il est juste là, pis tu le vois dans sa face, il est pas là partout, c'est encore lisse, il est juste out que ça finisse, genre, pour aller manger.
Mais l'affaire qui est, comme je te dis, c'est deux anciens training partners. Puis tu sais, des fois, l'affaire que je trouve qui est un peu pédée dans cette histoire-là, c'est que Kobe qui a accepté le fight demain à Danem au dernier moment même, puis dit « Ah, oh, je vais aller péter Robbie Lawler », c'est genre fait, dans le fond, il savait qu'il le défonçait, puis il a juste été là pour prouver, tu sais, il l'a pogné, il a juste dit « Regarde, je sais que je le pète facilement », et il savait déjà d'avance. C'est pour qu'il ait accepté son combat là, genre 3-4 semaines du combat. Puis tu sais, il va là, même pas de l'air stressé, pas rien. Puis tu sais, je trouvais ça un peu sketch dans un sens, parce que je pense qu'il savait déjà qu'il gagnait.
Ouais, non, c'est ça, exactement. Là, quand tu t'es entraîné avec le gars, quand t'as toujours le dessus sur lui dans le gym, tu sais, tu vas probablement avoir le dessus sur lui dans le combat. Là,
ouais.
Fait que, ouais, ça a de l'allure, man, mais je vais faire un petit retour en arrière, là. Tu parlais de genre 10 minutes de ta diète. Je me demandais, ouais. Le gros, man, comme. Parce que oui, je le sais que tu coupais pas tant d'eau à 135, mais comme t'as dit, c'était à cause de ta diète. Moi, par expérience personnelle, quand je fais des compés de joue, que j'étais fucking trop lourd, là, puis je me suis obstiné à quand même aller compétitionner dans ma division de poids. Il a fallu que je me mette à, tu sais, tu te mets à diète pendant 2 mois avant, pis c'est à tous les jours, pis c'est colissement à strict, pis moi, personnellement, à toutes les fois, ça a été mes pires compétitions. Parce qu'on dirait que ça m'avait tellement tout pris pour me rendre là, me rendre à compé au poids, genre, j'avais plus rien à donner pendant le combat. C'est un combat que, on dirait, genre, soit je manquais d'énergie ou je me décourageais facilement. Je me retrouvais d'une position de marche, je donnais des points, pis j'étais genre, ah, fuck, est-ce que ça va pas bien? Puis au lieu de continuer à être dans le combat, je me retrouvais justement comme Steve Robbie Lawler, ça me tue. Pis après 2 minutes, j'étais genre, bon, regarde, est-ce il a passé ma garde, j'ai donné des points, ben, est-ce que je vais sûrement à perdre. Fait que, tu sais, je me demandais, c'est peut-être si tu... Tu sais, toi, t'as quand même show out là, dans tes 2 premiers combats, ça le cachera pas, ça a duré moins d'une minute. Ben, mais je me demandais, c'était ça un peu de même, genre, que la diète pis le processus comme pour te rendre là, était comme tellement chiant, là, genre.
Encore là, man, je touche du bois, man. Tu sais, je veux dire, j'arrive là préparé, man. J'arrive là tellement préparé, c'est pas juste la diète, là, mais tu sais, j'arrive là tellement bien préparé que, tu sais, mes combats, là, pis tu sais, même en amateur, là, c'était... Mes combats pro ont vraiment montré ma carrière amateur, là. Tu sais, j'ai pas eu plus, nécessairement, plus d'expérience là-dessus. Tu sais, j'ai quand même... J'ai un style qui va quand même assez rapide. Tu sais, si je te pogne dans mes... tu rentres dans ma game, je te le dis, c'est une question que ça va pas durer longtemps. Tu sais, c'est juste comme ça. Puis tu sais, à date, tout le monde, j'ai réussi à bien installer ma game rapidement sur chaque combat. C'est pour ça que c'est dur à gager, savoir si j'avais encore de l'énergie ou j'en avais pas. Mais tu sais, tu te le poids, tu performes, tu gagnes le premier round, tu te dis que on continue, on a pas le choix, là.
Ouais, non, c'est clair. Mais c'est pas ça, ouais, c'est ça, Moutou, je suis tout le temps dans le gym, là, je me raconte des fois, c'est trop, asti, il y a des jours que, tu sais, mettons, je roule 2 fois le lundi, je roule 2 fois le mardi, là, je donne mon cours de no-gi le mercredi matin, pis là, des fois, le mercredi soir, gros, là, je suis, ah, il me semble, ça me tente pas, pis là, des fois, je choke, parce que, Chris, ça fait, genre, 6 fois que je roule en 2 jours, pis je réussis à me sentir mal, pareil, là, genre, là, Chris, j'ai pas été au gym, là, sacrement, là, je suis gay, là, c'est quoi, nanana, fait. On dirait que c'était...
T'as déjà roulé, tu sais, t'as roulé. Tu sais, je veux dire, comment je veux dire, tu l'as fait le matin.
Ouais, pis le matin, on n'y arrive pas non plus, là.
Avec un training camp, je me tape ses doigts. Tu sais, je te le dis, je me donne un coup dans le cul, je le fais. Mais quand, maintenant, je suis plus en camp, là, j'essaie de prendre ça un peu plus slack. Tu veux dire, si je m'entraîne au moins une fois, je suis correct. Tu sais, j'ai pas besoin de me pousser pour aller 2 ou 3 fois, tu sais.
Ah, c'est clair. Ben, pis des training MMA et tout, c'est violent, là. Veux pas si t'arrives pis tu fais, mettons, genre un esti de Shark Tank de takedown contre la cage ou le mur, là. Et genre, t'as pas le goût de faire un autre training après, là. Tu sais, c'est de l'esti de merde, là. C'est le fun, là, c'est super plaisant à faire, mais après, gros, tu le sais que tu l'as fait, tu sais, c'est comme, ces trainings-là, ça rentre au poste. Plus que des fois...
J'aime mieux faire de la cage que juste faire du jeu, rouler en jeu.
Non, moi,
je trouve ça moins fatigant.
Ah, moi, y'a rien que j'aime mieux que rouler en jeu, là, mais moi, j'ai développé, je pense que c'est direct aujourd'hui que je sors ma théorie, man. Check ça, j'ai une théorie comme quoi le cardio, ça n'existe pas, man.
Ah, man, je peux comprendre un peu de la manière que tu dis, parce que ceux qui ont déjà fait du grappling comprennent que tu vas être fatigué au premier round, pis après ça, c'est juste que ça se tasse sur ce point-là, pis tu continues jusqu'à la fin.
Ouais, mais check, garde, pas compliqué, là, je vais te conter une histoire, man, pour t'illustrer ça, ok? Puis je vais même te donner un exemple. Moi, un moment donné dans ma vie, il est arrivé des affaires, puis en tout cas, il y a une période plus rough, puis j'ai pris du poids, man. J'étais gros, je pesais 234 livres. Puis je mesure même pas 5 pieds 10. Fait que tu sais, j'étais gros, j'étais crissement gros. Puis un moment donné, je me suis dit, là, tabarnak, faut que ça arrête. Fait que j'étais allé m'inscrire au gym à la base militaire à Saint-Jean. Puis j'avais jamais couru de ma vie, là. Au secondaire, il fallait faire une course de 3 km, c'était obligatoire, ça s'appelait la trotte. Puis esti, je me calais des Red Bull avant, puis je finissais par les vomir à la fin, parce que j'étais pas capable de courir, man. Puis pendant l'esti de 3 km, genre, j'arrêtais pour marcher 2-3 fois, là. Fait que, en tout cas, j'étais pas capable. Puis là, ce jour-là, j'étais arrivé au gym, puis j'étais gros, puis j'étais laid, puis je me dis, là, mon gros tabarnak, tu t'en vas coller ton cul sur un tapis roulant, là, puis tu passes ça assez vite pour que tu cours, puis tu cours pendant 1 heure, man, sans arrêt, genre, first time ever, sans arrêt, le gros, Puis je l'ai fait, tabarnak. Puis ouais, j'ai vomi partout après comme un esti pas bon. Mais ça a plus jamais été dur pour moi de courir une heure par après. Parce que j'avais une barrière mentale, puis je l'ai pété. Puis il y a pas de limite au corps humain, le gros. Tu sais, il y a du monde, là, qui travaille dans des mines, esti, au Chili, puis au Pérou. Puis genre, il arrive une esti de bad luck, puis la calisse de mine, elle s'écroule sur eux. Puis là, ils sont pognés en dessous de la terre pendant un mois. Puis ils mangent pas, puis ils boivent pas, puis ils dorment pas. Puis cet esti de monde-là, ils survivent. Genre, la majorité du temps, il y a pas beaucoup de monde qui meurt, ils réussissent à les sortir de là pis ces gens-là survivent, mais moi, je suis pas capable de courir pendant une heure sans crever, genre. Tu sais, c'est juste dans la tête. Ce monde-là, il était pogné, pis ils se sont dit, moi, je meurs pas ici, tabarnak, je vais revoir ma femme, je vais revoir mes enfants, pis ils s'en sont sortis, pis c'est la même affaire pour le cardio, tu sais, en joue, moi, mon cours de no-gi le matin, on roule une heure sans arrêt, c'est de même, ça se passe, peu importe comment qu'on est, on divise ça, mettons qu'on est 6, on fait 6 rounds de 10 minutes, mettons qu'on, tu sais, fait que pis c'est le même, y a pas de pause entre les rolls, pis tout le monde qui arrive là au début capote, aïe, comment je vais faire pour rouler une heure, ben, tu te rends juste compte qu'après 20 minutes, quand t'es fatigué, t'as juste à te dire, ferme ta gueule, crise de fif, t'es pas fatigué, tu vas continuer à rouler, pis tu t'arrêteras quand c'est fini, pis après 40 minutes, après 45 minutes, y a plus personne de fatigué, pis, tu sais, y a jamais personne qui burf à la fin de mon cours, y a jamais personne qui se pousse pis qui est pas capable d'aller finir sa journée, parce que tu fais juste péter ton esti de barrière mentale, là, que t'as. Pis après ça, ben t'es good to go, man, genre all day long, pis y'en a plus de problème avec ça, là. Pis moi, depuis que j'ai pété cette barrière mentale-là, ben, je suis comme le gars qui est réputé dans le gym comme ayant du cardio à Stu Faber, peut rouler pendant une heure sans arrêt, pis il est même pas fatigué, mais tout le monde peut rouler une heure sans arrêt sans être fatigué. Faut juste que quand t'es fatigué, t'arrêtes de te dire que t'es fatigué pis tu continues à rouler, pis un moment donné, ton cerveau va juste oublier que t'es fatigué, là. Fait que c'est pour ça que je te dis que ça existe pas, le cardio, man, t'sais. Oui, c'est sûr qu'il y a une limite au corps humain, mais elle est colissement plus loin que ton cerveau. C'est que ton cerveau, quand ça commence à être souffrant, il t'envoie des messages pour que, t'sais, t'arrêtes. Mais quand tu combats ça, quand tu combats ton cerveau, t'es capable de toujours aller un step plus loin, un step plus loin, un step plus loin, selon moi, disons.
Ouais. Non, ça a du sens. Parce que je suis un peu comme toi, moi aussi. Je l'arrête pas, puis je le fais. Mais t'sais, c'est aussi... Puis tu laisses cette motivation-là. Il y a du monde qui, justement, ils ont besoin de monde de se faire pousser. Puis, tu sais, c'est correct aussi. Mais il y en a qui l'ont dans d'eux, puis toi, tu viens de te rendre compte que tu l'as dans toi aussi, tu sais. Ouais. Il y a du auto-motivation, man. Je trouve que c'est tellement une bonne qualité à avoir, man, parce qu'il y a du monde, vraiment, qui ont besoin tout le temps de se faire pousser. Puis je trouve, des fois, genre, man, tu devrais réaliser, là, qu'on n'a pas besoin de te pousser. Tu sais que tu peux en faire plus, là. T'es capable, là. Arrête d'avoir de douter, là, pis faire comme, tu sais, oh, je suis fatigué, là, je peux en sauter un. Non, tu sais, souvent, moi, je suis un peu le genre de gars qui va ramasser, va dire, hey, vas-y, là, t'en fais un autre, n'est-ce pas, là.
Ouais, c'est ça, surtout que si t'es là, t'es en train de le faire, vas-y, le gros, là, vas-y à fond, man, pousse la machine au maximum que t'es capable de la pousser, man, parce que peut-être que le prochain coup, tu pourras rien que pas, il peut arriver de quoi, pis tu pourras rien que pas, genre, aller t'entraîner, tu pourras rien que pas aller rouler, que ça soit une blessure ou n'importe quoi, là.
Il y en a, des fois, là, c'est parce que des fois, tu sais, des fois, quand tu peignes deux, trois gars qui sont vraiment bons, là, ça te décourage, des choses comme ça. Mais tu sais, au contraire, même, faut-tu prendre ça comme une bonne leçon? Il y a du monde, des fois, qui s'assoit, là, pis sont genre, oh, là, j'en peux plus. C'est, au contraire, c'est, là, t'es rendu brûlé, c'est là que tu vas apprendre. Justement, si le gars, le bon gars t'a pogné, ok, fine, ben fais-le à l'autre gars qui est aussi bon que toi.
Eh ouais. Gros, ça me fait rappeler, si j'étais allé rouler avec les boys Johan Lanez, Virgile, pis Lee Villeneuve. Pis si genre Lee m'a pogné le premier round, fait qu'après 7 minutes, le gros, je savais même plus si j'existais, là, parce que Lee Villeneuve, le gros, il est raide en tabarnak. Fait que, pis après, roule avec Johan, qui est un esti de gros gars. Pis le troisième round, j'ai pogné Virgile. Gros, ça me tentait même pas de le faire, pour être franc toi. Mais calice, je l'ai fait. Pis Virgile, là, il me traitait comme si j'étais un esti d'enfant qui avait jamais roulé de sa vie, man. Parce que j'étais fini ben raide, mon gars. Pis genre, tu sais, j'étais décalissé. Il est plus gros que moi, en plus de, tu sais, 20-25 livres solides, genre. Fait que c'était juste le pire match-up que je pouvais pogner à la fin, mais Chris, je suis content Nesti de l'avoir fait ce round-là, man, parce que je me suis retrouvé dans des positions que je me retrouve jamais quand je suis dans le gym contre mes partenaires habituels que je connais bien, pis j'ai toute mon énergie, pis, tu sais, ils se retrouveront pas à des places que Virgile m'a pogné juste parce que j'étais rendu, genre, un Nesti de vidange, plus capable de se déplacer, mais Chris, ça m'a fait apprendre, là, ce round-là, à la fin du training, j'étais, genre, plus content que n'importe quel autre training, là.
Ouais. Ah,
je suis
d'accord avec toi.
Yup, fait que c'est hot, mais Chris, je te remercie, mon gars. Je vais te laisser aller faire tes affaires. On a déjà une bonne demi-heure de fête. Fait que ça va être perfect avec ça. toujours sur la coche de te parler, mon frère. En plus, on a toujours un esti de bon flow.
Merci à toi, Faber.
Ça me fait plaisir. Puis si on a hâte de voir le comeback, man, ça va être prochainement. Là, on dira pas de date parce qu'on le sait pas trop en ce moment, mais prochainement.
Ouais, c'est ça.
Mois de septembre.
Bye, Faber.
Mois de septembre. Bye, mon frère. Thank you very much.
Merci à toi.
Bye. Yes, tout le monde, de retour cette semaine avec le bantamweight de l'UFC. I am talking about Cole Smith. How are you doing, man?
I'm doing good, man. Thanks for having me, bro.
It's a pleasure, man. It's a pleasure because you'll get to have the chance to fight in front of your own crowd now in your next fight. And I really wanted to talk about that with you because it's going to be a great fight. Two top prospects, like probably the top prospect in Canada. You've proven that times and times again. Against probably one of the better prospects in the United States in Miles John, a guy that has fought for the LFA, that was champion, and that fought many good guys. So just before we get to speak about that matchup, I just wanted to know, how excited are you to be fighting in BC, in Vancouver, in front of your people for that fight?
Yeah, of course I'm excited, man. Of course. What a dream come true, you know? Getting to fight in front of friends and family in the biggest organization in the world, that's a pretty good experience, you know. So I'm just going to take it in and enjoy it, you know. I didn't work this hard to not fully enjoy the whole experience.
Yeah, for sure. And that one, I know it was going to be special, but I just want to take it back before to your UFC debut, because I've spoken with Miles. You guys are probably going to be the same episode of the podcast. I already got an interview done with him. And as we've been talking, Miles, we've got to see him, even though he's the guy from the USA and you're the guy from Canada, because you've been fighting for BFL. Before your UFC debut, I never had really the chance to see you fight. The only times I've seen a fight, it was when you fought Carlos Galva and his family. They put it on YouTube, so I got to see a little bit of you fighting, but I really discovered you in Ottawa. We got to see like the full extent of your potential. You came in, you defeated Mitch Gagnon, so I wanted to just take it back to that first experience. How was it, and how has it been since then?
Yeah, man, that experience was fantastic. Obviously, the UFC's great, man. They treated me fantastic. You know, they took care of everything, my food preparation, my strength and conditioning, all that kind of stuff, you know. But the experience itself was great, man. You know, there's nothing like walking out and having a bunch of people chanting. And actually, everyone was booing for me out there because everyone was obviously going for Mitch, you know. But yeah, so it was good, man. It was a great time, great experience. I'm ready for the next one, though.
Yeah, that time you're going to have people on your side.
Yeah, that was a tough fight, man. Mitch was tough as nails, you know. He got me with a good shot there in the third round. So, you know, I got nothing but respect for him. He was a great opponent, and yeah, that was a great time.
How does Mitch compare, like, quality-wise to Miles Johns, according to you?
Well, I don't know. I mean, I haven't fought him yet, right? But I mean, they seem like they kind of have the same kind of style, you know, a lot of hands, a lot of wrestling. They're a little bit shorter. I'm a little bit taller, you know, a little bit longer. So, you know, I feel like I've fought his style of fight before. So, I feel like obviously Mitch is a little more experienced and he's a top prospect. So that, you know, there's that, but other than that, I think they're kind of the same style.
Yep. How big are you into looking at your opponent's fights? Do you watch it a lot, or do you just leave it to your coaches and see what they make you drill and make you practice for the fight?
I was actually there for his fight. I was in Las Vegas, and I was at the Contender. I actually watched him fight live, so. You know, I got that going for me, you know what I mean? But other than that, you know, when I got home, my brother and my coaches, you know, they do most of the videos and they do most of the watching and all that kind of stuff. So, you know, I just kind of go with whatever they think is best, and they critique and pick apart my opponent, and I do the rest.
Yeah, for sure, man. I feel like you guys at that level, it's like, you need to be spending the time training. You need to be spending the time doing other things than like analyzing tape and looking at like small details from your opponents. And I know there are some guys that are like crazy about that, but I feel like your coaches can do that, and it's all as much as especially you, since you kind of have your brother as a coach who is like real close to you. And
yeah, definitely. Like I said before, you know, I feel like watching too many videos can either work for you or work against you. You know, if you watch a video and you know, buddy comes out banging and looking real good, you're like, oh man, I don't know if I'm ready for this guy. You know what I mean? Or you watch a video and you're like, he doesn't look very good, and you kind of underestimate your opponent, and he comes out a lot better than you were expecting. So I don't know. Sometimes watching videos can play for you, play against you. So I let them do that, and I just stick to training.
Yep. And speaking about that, do you feel like video availability plays in your favor for that fight? Because like, there's no footage of you outside of like that small footage on YouTube and your first UFC fight. You can see Miles Jones fight like easily. He's fought for the LFA. It's available like pretty much everywhere. So do you feel like for your coaches versus his coaches, like it's a tougher job to be able to analyze you? Because yes, we've seen you in a full UFC fight, but like the fight was spent like in the clinch and doing stuff. I don't think we've seen the full extent of your MMA game in that only UFC fight. So do you feel like that could be an advantage, that you can have maybe some hidden cards in your game that maybe he won't be able to have, since we've seen him fight since his basically his first pro fight?
Yeah, it's funny that you bring that up, because it's always been kind of a love-hate thing, you know? Like, I've always kind of hated that I haven't been able to have my footage and watch all my footage and all that, but it's always been great that my opponents haven't been able to kind of...
Yeah, exactly, and, like, when I spoke to Miles, he was saying, like, he doesn't think that you fought the same level of a position that he has fought, but I feel like your record is kind of misleading, because you fought real good guys. You just fought them early in their careers. So if you look at the Tapology page, you see like 3-1s, and you say, oh, who's that 3-1 guy that he defeated? It was 3-2 after that. Must not have been that much of a good opponent, but it was like Jamie Siraj, who is probably the next bantamweight going to the UFC. So I feel like you're misleading in that way. When you just look at your record, you don't have much footage, don't have much pro MMA fights too, only 7 fights and only one in the UFC. So I feel like that's all like small factors that could be playing into your advantage for that fight.
Yeah, let's not forget about all my Muay Thai fights. You know what I mean? I've had 15, 16 of those. I've had a couple pro boxing fights. I've had 8 amateur fights. I mean, on the outside, I've had 7 fights, but on, you know, when you get to know me, I've had more than 30 fights. You know what I mean? So, you know, I've competed a lot in the sport. I'm quite experienced, even though my record may say a little bit different.
Yeah, no, for sure. And I feel like that's great, and that's going to be a good fight. But like, if everything goes according to plan, like, how does it play out? What happens? Do you keep it standing? Do you show out your Muay Thai skills? Or do you take him to the ground and submit him, like we all know you can do quite easily? So what's the ideal plan for that fight?
You know, I go into every fight kind of the same. I kind of take what they're going to give me. I go for the easiest route of victory, you know what I mean? So, you know, I'm going to have to see what Miles gives me, and I'm going to take it from there, you know what I mean? I'm pretty well-rounded. I feel like there's a lot of ways for me to win a fight. So it's just such a tough thing to say in the sport, you know what I mean? I can't really give you an answer on that. It's going to be a tough one.
Yeah, for sure. Do you expect it to be a competitive fight? Do you expect it to be tough?
Man, I'm in the UFC, man. Every single fight is tough. These guys are the best in the world, man. Of course it's going to be a tough fight. There's no easy fights anymore, man.
Yeah, no, for sure. Especially at bantamweight. Like, it must be quite exciting to be a bantamweight now, too. Because I feel like every, like, new prospect we hear about is a bantamweight. Like, almost everybody in that division is great, and almost everybody's like rising at the same time. So how excited are you to be just like in that division that is probably gonna become one of the best in the UFC, if not already?
Yeah, of course, man. The smaller fighters, you know, they're a little bit faster. They got a little bit more technique, I would say, just because they're a little bit smaller. You know what I mean? The bigger guys, to get off topic, it's not really, Yeah, it's great to be in the bantamweight division, man. The smaller fighters are great fighters to watch. You know, the fans are starting to finally pick up on all that. So I'm stoked to be in the bantamweight division, man. There's so many good fighters. There's so many good fights there for me.
Yeah, for sure. I don't know if it's because of weight cutting in general, but when you look at 135ers, you don't get the same feeling as 125ers. Like some of the 25ers, you really see, like they're small people. They're not tall guys. They're not like big guys. But with some 135ers, like guys like you, you're quite tall. You've got like quite large guys, and you can like when you look at these guys in the cage, you can figure out that they're weighing about like 155, like even to 160 some guys. So I feel like starting at bantamweight, people, they can relate better. I feel like maybe the flyweight problem is that people, they just can't relate to seeing these like small people fight, because man, it's the best fights. If you like fighting, it's the best fights because they're so technical, they're so quick. But I feel like when people are just watching casually, if they feel like people that are fighting are like the same size as them, like they can relate more, and that brings to a heavyweight drawing more, because like that's the spectacle side, like, oh, these huge guys are gonna knock each other out. But I think like 135 has one of the highest knockouts rate and highest finishing rates among all division, and like everybody's elite in that division, but people can knock some people out and people can submit people like real quick. So I think that's what makes that division like better and better and gaining more attention, because like, when you look at the top guys, you don't see real small people in there. Like Aljamain Sterling is huge. I know Henry Cejudo's the champ now, but that guy is like, I'm maybe taller than, he looks taller than he is, like when you see him fight, because he's such a great fighter. But like I feel like it's the division that's becoming maybe the go-to division in the UFC. You may just be the next lightweight, like basically, I feel, with all that talent rising, it's a real exciting place, man.
Yeah, I totally agree, man. I totally agree. People do like what they can relate to, you know. Besides all that, I do agree that bantamweight is one of the best divisions with some of the top prospects, man. There's no reason not to tune into that division. I mean, there's some killers in that division, so yeah, look out.
For sure, man. And last thing I wanted to know before I let you go, I don't know what your placement is going to be on the card, but are you excited after your fight to just like sit in the arena and get to witness Cowboy and fucking Justin Gaethje throw out?
You're not allowed out into the arena afterwards. You know what I mean? So you got to sit in the green room and eat, which is a cool experience in itself, you know what I mean? But so I won't be allowed to go back out into the arena and watch the show, unfortunately, you know. But yeah, the whole experience is good, man.
Yeah, oh, I thought you guys could at least just sneak in and get the...
No, there's no sneaking around, man. They're professional. They are on you, you know. They don't let you, because they think if you go out there, some dummies might start fighting with you or something. You know what I mean? People are drinking, you know. They might start picking a fight with you or something like that. So
yeah, it's not like it's not things that have happened in regional shows either. So maybe they have the right feeling about that. But thanks a lot, Cole, man. That was great. Yeah. And I'm going to let you go, let you do your stuff. And damn, I'm pumped for that fight. I got to tell you, I'm real pumped for that fight. And we'll be watching closely. We wish you the best of luck. Of course, you're a Canadian guy, so we kind of got a good root for you, man. And we'll be looking at this closely. Thanks a lot. And we'll get to speak again, man.
All right, you're the man, bro. Thank you.
Thanks a lot. Bye.
See you later.
Salut tout le monde, on est de retour cette semaine avec un combattant qui va faire ses débuts à l'UFC à Vancouver. C'est quelqu'un qu'on a vu au Contender Series. And I'm talking about Miles Johns. How's it going, Miles?
Good, how you doing?
I'm doing great. I'm real happy to have you on the podcast today, because first off, I got to tell you, I've been following you for a while, because I'm really interested in prospects, and I'm always looking at the bigger promotions like LFA, where you've been a champion, and since the get-go, I was open to see you like get a spot on a contender or on the UFC card, and you finally got the chance to have that, and you really showed off all the skills that you had in that contender fight, and now you're going to be fighting in Canada against a prospect from back here, who is Cole Smith, So I wanted to know, like, many things. I'll just get going by asking you about Cole Smith. What do you know about this guy?
I know he's a big bantamweight. I think he's like 5'11", so he's long. I know he has an undefeated record, too, which I love. I absolutely love that type of fight. Like, I'm undefeated. I want to fight somebody else undefeated. I think anybody who's, like, looking out for prospects and that gets excited about that fight as well. And he's tough. You know, he's a game opponent, so he's gonna come to fight. And I know he's going to be pumped up because, like you said, it's in his own backyard. So I know the crowd's going to be there for him. They're going to be hyped up, and they're going to be trying to get the win.
Yeah, for sure. And it's really going to be in his backyard, too, because Canada's a huge-ass country. So I'm from the East. I'm basically, like, if you put it in the United States map, I'm basically in New York, and you guys are going to be fighting in Los Angeles. So like, completely apart. So in the East, we knew about Cole Smith. We knew about his record, but he fights in a promotion where you've got to buy the pay-per-views to be able to see his fights. And like, I basically never had the chance to see him fight until his UFC debut when he fought Mitch Gagnon in Ottawa, where I was there because it's near where I live. So I just discovered Cole Smith, like, basically in that fight. So I got to do, like, that he was an enormous bantamweight. Yeah, he's a clinch fighter. He likes to wrestle, those types of things. But I just wanted to know, like, compared to your other matchups, how does this stack up? Because one thing that's, like, huge about you and why you've been, I think, dubbed as a big prospect is that I think from your third or fourth pro fight, you only fought guys with huge records.
So I think Cole Smith, I think he fits in that category. He's going to be another tough guy, and I think it's going to look good on my resume after I beat him. But I've been in these high-level fights, and, I mean, he before the UFC, I think his some of his level competition you could kind of question. But Mitch Gagnon, I mean, that's a good win for him. So he's been in the UFC cage before, fought somebody with some experience and got the W. So I give him respect for that. I've also fought a lot of tough guys. With some great records, so I'm not going to be this stage isn't going to be anything new to me, and I don't think he's going to bring a pace or a level that's new to me. It's just a different style of fight. I haven't really had one of these style of fights yet, and so I'm real excited about that, and it's going to be good.
Yeah, for sure. I think you must be quite confident for that matchup, too, because as you've shown in most of your fights, you're just real comfortable everywhere. That makes you, like, you're coming into the UFC already as a real complete fighter that, yeah, you can still add up to your game. He's so curious. That's wonderful.
Yeah.
you can add up to your game and, like, have more, like, intricacy in your techniques and stuff. But you already come in as a real complete fighter. If a guy wants to wrestle, you can wrestle him real good. You've got a background in wrestling. If that guy wants to strike, you can strike him real good, too. So do you feel like... especially that, like, is what gives you an advantage in a type of matchup like Cole Smith.
And I just got to give props to my coach and my team for that. It's one thing my coach has really been on me about. We've kind of taken the long route, the hard route, really. But I've had some injuries along the way, too. So it's just been a long path that I've just had to keep grinding. And my coach, our plan was always, he's always known I could be top 15 and I could win the belt. So we wanted to make sure that when we got in the UFC that we were really ready to go and that we are well-rounded and can fight anywhere. And I do feel like I can do that now. And so it's just been the perfect time, and I'm ready to jump in there and mix it up with anybody in the division, really.
Yeah, and it's an exciting division to be in right now, too. Like, bantamweight, like, I feel like every good prospect is a bantamweight, like, basically, so...
Yeah, the division's blowing up right now. There's a lot of buzz around it. So, and there's been some exciting fights. And these bantamweights, they got a lot of power too, you know, and they're knocking people out. So, I'm happy to be mixing up in that division.
Yeah, and you talked about your coach and your gym. Man, what's happening with Fortis MMA? Because we've been hearing about you guys for maybe a year and a half, 2 years at the higher level. You already had some UFC guys for quite a long time, but man, since the last year and a half, your gym, man, you guys been blowing up. Your coach is everywhere. You turn up to the Contender Series, he's there. You turn up to the UFC card, he's there like four times. Like, what's up with you guys, man?
I can't tell you exactly what's going on behind those doors, but I can just tell you that we're training smarter than as anybody in the game, and it's a lot of hard work, man. It's a lot of grinding. Like you said, coaches everywhere. He's making the moves for people and putting in the effort. Everybody on the team is putting in the effort for each other, not just for you. But if, you know, I'm going to have a fight, I know everybody's going to be there. And then right after my fight, I'm going to get right back in the gym just because I know another one of my teammates needs me. Or my little brother's fighting this weekend, so I'm right back in the gym to help them. So it's a lot of hard work. And, yeah, we're just getting started, man. We're trying to – we need to win a belt, and we're trying to be one of the – known as one of the dominant as the best gym in the world. So we're on our way there.
You're surely guys on their way there because – We knew about the ATTs, the AKAs, Jackson Wink, all these super camps and stuff. Even in Montreal, we've got TriStar, which is a huge camp too. But man, you guys, you've got nothing to envy. All these camps, whether you're in a matchup against anybody, you guys always do good. And you've got contenders like rising up real quick in the UFC. So my question is, I know you'll want to say you, but if we exclude yourself, who's the first guy from Fortis MMA who wins a belt?
Oh, man, that's tough. It's tough. I mean, we got Jeff Neal, of course, just with his big win this past weekend. But we also got Carlos Diego Ferreira is on the way. You know, he's had some things in his career that's gone a little slower, but dude's beat some high-level guys. He's got to continue to do so. And the 205 division, there's just so many, or 215. All those guys can make a run. Can make a run and be fighting for a belt real soon. Just because I know that that division isn't as deep right now, and they're looking for stars. So I don't know, man. The next year we could have a handful of number one contenders. Excuse me.
No problem. But damn, oh yeah, I feel like Jeff Neal is a real good candidate because this guy's so good, like so good. We've seen it last weekend, such an impressive performance against Nico Price. And like we've seen him in plenty matchups and guys that were trying to play like the game differently. And like if you want to slow pace kickbox him, he's going to kick your ass. If you want to be crazy as hell like Nico Price and almost finish him, like you'll just get fucked up way worse after it. So I feel like Jeff Neal, he's a prime candidate to become that because he's got to fight like some ranked guys next.
Yeah, for sure. He's right in there. He's going to make his run for that belt real soon, and he's ready to go. Alonzo just came off a huge knockout with that in that division. I mean, he can move up the ranks real quick, Ryan Spann, Kennedy. So, it's an exciting time right now.
Yeah, for sure. So let's talk about you and your Contender Series fight a little bit because it was on the all decision card. So I guess that must have been like, I don't know how to really say it, but I was wondering when the fight ended. It was a banger. It was probably the better fight on the card, but it was a decision. So at that moment, were you like worried that he wasn't going to give you the contract since it's kind of known that he's looking for finishes and stuff on the Contender Series?
Of course, there's a little bit of anxiety there. I was like just the not knowing. You never know what's going to happen. So there was a little bit of anxiety there, but I feel like I put it all out. I was trying to finish him at all times. Shout out to Richie. I mean, the dude was freaking tough. I broke his jaw in there. I dropped him. I was going for the finish. I had some guillotines that I thought were going to sink in and that he was able to roll out. But I felt the energy in the arena, and I felt like I felt like it kind of set the tone for the night. Like the energy level just increased. And so I was confident, but yeah, I was like, man, like you just never know. I wish I would have got that finish. I'm like, man, I'm so hungry for a finish right now. I fought a lot of tough dudes and had some decision wins. So I'm just really, I'm hungry for a finish right now, and I'm hoping to get in this next fight.
Yeah, no, for sure, man. It was such a tough opponent to Richie, like you said. He's good, man. We saw him in that fight. He was a game opponent. He came back and like everything you thrown at him, he had something to try to answer to your strikes, and it was such a great fight, such a great performance, and I think should give you like momentum going into the UFC, knowing that, man, you basically been fighting those type of level guys for years now.
100%.
And in the gym too, like all day long.
Yeah. Yeah, I mean, the gym, that's really where it – sorry, man, juggling these kids.
Yeah, no, don't worry about it. Don't worry.
The gym and my teammates, man, that's really where it's all built. and we got all sorts of guys there, and I just got to give so much credit to them. Everybody's there working hard, and yeah, we got some beasts in there, so there's nobody that we could fight that we wouldn't be ready for.
Exactly. So I know you guys, you don't want to look too much into the future. You still got to go on and fight in Vancouver. But I know you still guys love to do a little planning, love to do a little like visualization of what could be next. So what's the plan? Like, I don't want you to call people out. If you want to do, you can. But what's the plan for the rest of the year, the beginning of 2020 for Miles Jones after that first UFC fight in Vancouver?
The plan is just hopefully stay healthy during that fight and get right back to work. You know, the division is so deep right now. There's been a lot of fights that's recently happened in the bantamweight division. So there's a lot of guys we got our eye on. And, I mean, I just know it's going to have to take a couple wins and move up those rankings. And hopefully by the end of 2020, be talking the top 15 guy.
Okay, so you're not trying to slow play things. You're looking to get right in and fight those top guys as soon as possible.
I am. I'm looking to start mixing it up with the best guys. I mean, of course, like I said, we're going to have to move up the rankings, and we'll do that. But I'm looking by the end of 2020, after a couple wins, hopefully fighting a top 15 guy.
Yeah. What's your dream fight at 135? Like right now, who's the guy that if you could fight him like tomorrow, it would be like so like a bucket list fight for you?
Well, right now, I'd say that's Cole Smith. You know, like our first fight in the UFC, we're headed down to Vancouver, heading into enemy territory. I mean, that's just like perfect for a UFC debut. And then, you know, after that, maybe move back to our hometown. But of course, the dream, like the dream fight is for the belt. And it doesn't really matter who that's against. It's just that's the dream fight. I want to win the belt. I want to be UFC champion. So whoever's there at the time, he'll be the dream guy.
Yeah, for sure, man. It's cool to see guys like you just come in and like have big aspirations like this and have the skills to back it up, the camp to back it up, because we know it's a game that you can't leave like shit to random. You gotta plan to plan every small detail along the way, because when you go into the UFC, you're only fighting guys like you. You're only fighting guys with perfect records or near perfect records, or guys that have like most losses in the UFC. So you look at their record and it's not that good, but man, they've been fighting top 20 guys for many times. Yeah. So it's important to always not leave anything to the random. And I feel like you guys with your gym, like a guy that seems to have a real good mentality like you, I feel like everything's already planned out. No detail is left unanswered. And I feel like we can expect great things from you in the UFC. And I'm really, really looking forward to that fight, because Cole, he's shown good things too, and I feel like it's going to be a banger on a card that has good fights, but as yeah. Like the way, like, you can be the talking point, I feel, after that card. There's sure, for sure, there's going to be the main event. They're going to steal the show. They're going to get 50K. That's like, that's guaranteed for sure. But after that, I feel like we always have one or two talking points. And like, you're in a big prospect fight. You're in a fight that people are going to be looking forward to, as like the winner of that fight can become something great, and the loser too. Yeah. Like, but
and it's awesome, man, because the contender series sets you up like that. This year, Dana and them have done a really good job promoting the contender series guys. I've got a ton of love on social media and stuff. People saying, looking forward to seeing you fight and stuff. So I'm so grateful to go the route that I did, getting the opportunity to be in the contender series. And like my coaches tell me, like, it's very rare that Dana says something about you after you fight. Like, if I would have just came in and just debuted in the UFC on a normal card, like, there's no way he would have pointed me out and been like, this guy's a savage, this guy's an animal. The contender series set you up for that platform. It's exactly what it's for. So, yeah, I think we got some momentum going into this fight right now. It's a quick turnaround. It was like 5 weeks ago that I just fought. So I'm just ready to use that momentum, get in there, and get some more behind me.
Yeah, man, for sure. Have you ever been to Canada?
No, I've never been to Canada.
Okay, but Vancouver is a cool place to start. It's real nice. You're going to have like plenty of things to go and look after for your fight week, man. I'm not worried about this.
Awesome.
Yeah, it's really cool, and it's like, but it's like in the Pacific. I don't know if you've ever been to like the Seattle or Pacific Northwest, but it's that.
I haven't been there, no.
It's that type of weather back there, man. Cause I'm in Quebec, I'm in Montreal, and man, we're close to the south. Like, we're actually, I'm maybe 25 minutes away, 30 minutes away from the border, so from New York, the state of New York. But it gets cold as fuck back here. Like, in the winter, we've got snow. We've got those minus 30 days. But, like, in Vancouver, none of that shit happens. Because there's, like, the mountains. And Vancouver is, like, west from the mountains. And all the bad shit happens, like, east from the mountains. But in Vancouver, like, it's always, like, 20 degrees outside. And in the winter, it gets, like, maybe 10 degrees outside. But, like, it's wonderful weather. It's rainy sometimes, but it's wonderful weather. And it's a real cool city. Right. It's probably one of the better cities in Canada. So I'm pretty sure you'll have fun there and get to enjoy the place. Yeah, a little bit before your UFC debut. And then I hope you'll get to enjoy your fight, too. Because that's what you're here for.
Yes, sir. Yeah.
Yup. So, man, thanks for taking the time. It was amazing. And we'll be looking forward to that fight a lot. And I thank you for taking the time. And I hope that we'll get to speak again. Maybe after your win or after your fight, we'll get to do this again.
Yeah, for sure. Thanks for having me.
Thank you, my man. Bye.
All right.
Voilà, c'était le Fabercast cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Un énorme merci à Frédéric Duprat, toujours très généreux de son temps. Puis les discussions sont toujours sur la coche avec Fred. On n'a même pas l'impression que je suis en train de faire une entrevue. On est juste comme deux amis qui jasent. Puis selon moi, c'est ça le meilleur flow. C'est ça les meilleures discussions. Puis c'est ça qui est le plus intéressant à écouter. Donc, gros merci à Fred. Aussi, merci à Cole Smith, Miles John. Thanks a lot to both of you guys. I'm really looking forward to that fight taking place in Vancouver on September 14. And I'll be watching closely. Thanks a lot to both of you to take the time to speak with me, and it was great, and I hope we'll get to do this again. I'll be looking closely at that fight, so thanks a lot to both of you guys. Et puis c'est ça, suivez tous mes invités sur leurs réseaux sociaux, et puis suivez moi aussi sur mes réseaux sociaux, parce que tu sais, toujours gentil de me donner un petit peu d'attention à moi aussi. Et puis ça, c'est sur Facebook, MMA Talk, sur YouTube, MMA Talk, sur Instagram, The MMA Talk, THE bien sûr. Sur Twitter, c'est The_MMA Talk. Et puis finalement, au MMAtalk.ca, le site internet sur lequel je mets tellement de temps, qui va d'ailleurs être en vacances cette semaine parce qu'il n'y a personne qui va écrire dessus parce que je ne serai pas là. Puis à date, j'ai pas perdu personne d'autre qui écrit avec moi sur le site. Donc le site web est en vacances, mais pas la page. Donc stay tuned sur la page MMA Talk toute la semaine. Et puis c'est ça. Bye. Et à la prochaine pour un autre Fabercast.